Chapitre 7e. Les chrétiens évangéliques de Paris en 1534. Été 1534. Calvin trouva Paris bien différent de ce qu'il l'avait laissé quand, 8 mois auparavant, il avait quitté en grande hâte. Les temps semblaient favorables à l'Évangile. Le roi d'Angleterre, tout en restant catholique de cœur, avait résolu de s'émanciper de la domination romaine. Cet événement avait, dans toute l'Europe, un immense retentissement et plusieurs se demandaient si François Ier n'allait pas imiter son bon frère. Il n'en semblait pas très éloigné. Il s'unissait alors aux princes protestants de l'Allemagne, il rétablissait l'un d'eux dans ses états et présentait au clergé français des articles de foi rédigés par l'auteur de la Confession d'Augsbourg. Calvin connaissait ces actes étranges du monarque et c'était en partie ce qu'il avait engagé à se rendre à Paris. François Ier n'était pas seul en France à avoir de nouvelles aspirations. Il y avait dans toutes les classes quelques penchants vers une réforme. Les lettrés demandaient la liberté de la pensée et désiraient voir finir le règne des moines. Certains hommes d'État voulaient délivrer la France de l'influence assujettissante de Rome, tout en maintenant la catholicité. Guillaume du Bellay, le plus actif ministre du roi, appelait le réformateur d'Usser un excellent professeur de la meilleure théologie et lui écrivait « Tout nous commande d'avoir bonne espérance. Le roi lui-même a chaque jour plus de goût pour les meilleures lettres, c'est-à-dire pour les saintes écritures. » Bucer lui-même, plein d'espérance, les communiquait à ses amis. « Le règne du pape baisse beaucoup en France, leur écrivait-il, et plusieurs y soupirent après Jésus-Christ. » Le clergé s'inquiétait et un franciscain se plaignait que l'hérésie de Luther étant entrée en France, s'y était fait une place déjà fort large, jusqu'à presque se dire maîtresse mêmement de Paris. Des nobles, des savants, des bourgeois, des étudiants et beaucoup d'hommes du peuple saluaient la Réformation comme le commencement d'un jour nouveau. Tous ceux qui ont de l'esprit, disait-on, quel que soit leur âge et leur sexe, entendant prêcher la vérité, se retirent de la bigoterie. C'est sur ces entrefaites que Calvin descendit à Paris, dans la rue Saint-Martin, à l'enseigne du Pélican, chez son ami Delaforge. Le pieux marchand et son épouse le reçurent avec la plus cordiale hospitalité, et, craignant qu'il n'exposât de nouveau une vie si précieuse à l'Église, ils le conjurèrent de ne pas trop se fier à ce qu'on disait des dispositions du roi et de se garder d'enseigner publiquement s'il ne voulait pas s'exposer à la mort. La flamme de la persécution, qui paraissait éteinte, pouvait briller de nouveau à tout moment. Un martyr, dont on lui rapportait les détails, était bien propre à appuyer ses règles de prudence. Calvin ne retrouvait pas à Paris ce chrétien fort et décidé, le chirurgien pointé, qu'il avait souvent rencontré dans les assemblées. Les moines auxquels cet homme hardi avait fait sur leur immoralité de si vertes leçons avaient crié contre lui. Le curé Leclerc de Saint-André-des-Arts l'avait poursuivi. Il avait été enfermé dans la conciergerie et condamné à être étranglé puis brûlé. C'était payer bien cher les préceptes de morale qu'il avait donnés au clerc. Avant l'heure du supplice, les geôliers l'avaient conduit dans la chapelle de la prison et l'y avaient laissé avec un moine devant une image. Le confesseur se mit à l'exhorter. « Mettez-vous à genoux devant cette image, lui dit-il, et demandez pardon de vos fautes. » En voyant que son pénitent restait immobile, il le saisit par la main pour lui faire prendre cette position. Mais Pointé, qui avait de sa nature une grande véhémence d'esprit, repoussa vivement le moine et lui dit « Satan, retire-toi et ne tente pas de me faire idolâtre !» Le confesseur, bouleversé, indigné, sortit précipitamment de la chapelle, monta dans la chambre criminelle, raconta ce qui venait de se passer au président et à ses deux conseillers et les conjura de venir mettre cet homme à la raison. « C'est un forcené, il est hors de sens, » dirent les magistrats. Et ils descendirent avec le confesseur. Ces trois personnages qui venaient de condamner Pointet à être étranglé, lui ayant répété l'invitation que le moine lui avait faite, le prisonnier, que la persécution indignait, les caressa, dit le chroniqueur, comme il avait caressé le moine. Gens sanguinaires, leur dit-il, meurtriers, brigands, qui, iniquement et contre toute raison, mettez à mort les enfants de Dieu. Les trois juges, émus et effrayés à leur tour, remontèrent dans la salle du tribunal. Et là, échauffés de colère, ils aggravèrent la sentence, ajoutant que Pointet aurait, avant toute autre opération, la langue coupée. Cette langue ne les avait-elle pas appelés meurtriers ? On espérait qu'ils se montreraient alors plus faciles, mais on se trompait. Le ferme chrétien ne pouvait plus parler, mais il se refusait à donner le moindre signe de rétractation et à baisser la tête devant une image. Les ennemis de la vérité, comme la chronique les appelle, voyant cela, eurent recours à une nouvelle aggravation de la sentence. Ils condamnèrent Pointet à être brûlé tout vif, ce qui se fit le plus cruellement dont on se put aviser. Cette mort laissa une profonde impression dans l'âme des chrétiens évangéliques de Paris. Calvin, cédant aux représentations de ses amis, résolut de substituer à des prédications dans les assemblées des admonitions particulières et commença par visiter les humbles chrétiens dont il entendait parler chez Delaforge. Dans la rue qui était entre les deux portes du palais se trouvait une boutique de cordonniers. En entrant, on y apercevait d'abord un pauvre bossu, perclus de tous ses membres, excepté la langue et les bras. Ce paralytique était le fils du cordonnier et s'appelait Barthélemy. « Ah !» disait son père Robert Milon à ceux qui, en le voyant, exprimaient leur compassion. « Il n'a pas toujours été comme cela. Il était tout autre dans sa jeunesse, doué de grâces excellentes quant au corps et quant à l'esprit. » En effet, Barthélemy avait été le plus beau jeune homme du quartier, fort adroit, plein de vivacité et d'imagination. Il en avait abusé, il avait suivi sa nature passionnée et s'était élancé dans la vie en se livrant à toutes les convoitises de la jeunesse, aux folles amours ou autres façons de faire désordonnées, desquelles les jeunes gens sont volontiers entachés. Sans cesse emporté par des mouvements impétueux, il recherchait les plaisirs et les querelles. Il se jetait dans la mêlée dès qu'il y avait quelque débat et déployait dans toutes les disputes une témérité sans égale. Il organisait des bals, des concerts, méprisait les choses de Dieu, tournait les prêtres en ridicule et se moquait des hommes pieux. Chacun dans le quartier parlait de Berthelot, c'est ainsi qu'on l'appelait, et de ses prouesses, les uns avec admiration, les autres avec crainte. Tous les jeunes gens le reconnaissaient pour leur chef. Un jour qu'il se livrait étourdiment à ses ébats ordinaires, il fit une chute, se rompit les côtes, et comme il ne voulait d'aucun remède, il aggrava son mal. Les diverses parties de son corps, petit à petit, défaillirent, et il fut entièrement paralysé. Quel changement dans sa vie ! Le pauvre Barthélemy, qui avait été si fier de sa beauté, maintenant débile, cassé, privé de l'usage de ses membres, hors d'état de courir avec ses amis, était obligé de garder tout le jour la boutique de son père. Il était profondément accablé, non seulement par les douleurs aiguës qu'il éprouvait, mais encore par la vue de ses difformités. Assis près de la fenêtre, il n'avait d'autre récréation que de regarder les passants, et sa malice étant toujours la même, ou plutôt s'était accrue par son malheur, il n'épargnait pas les brocards. Un jour, ayant vu passer devant la boutique un homme évangélique, il se mit aussitôt à l'insulter et à brocarder, braver, la majesté redoutable de Dieu. « Hé, luthérien ! » s'écriait-il, et il ajoutait toutes sortes de moqueries. Le chrétien s'arrêta. Il fut ému en voyant l'état pitoyable du malheureux qu'il insultait. Il s'approcha et lui dit avec affection « Pauvre homme, pourquoi te moques-tu des passants ? Ne vois-tu pas que Dieu a de cette façon courbé ton corps pour redresser ton âme ?» Cette parole si simple frappa Milon. Il n'avait jamais pensé que son âme aussi fût courbée. « Oh » dit-il, « serait-il vrai que Dieu ait fait tomber sur moi ses infirmités pour réformer sa créature égarée ? » Il prêta audience au passant, et celui-ci lui parla, lui présenta un nouveau testament, et lui dit « Vois ce livre, et d'ici à quelques jours, tu me sauras dire quel il te semble. » Milon saisit l'évangile, il l'ouvrit, et ayant commencé, dit le chroniqueur, à goûter le fruit de cette lecture, il ne cessa nuit et jour de continuer en Icelle. Ce petit volume lui suffisait, il n'avait besoin d'aucun docteur. L'épée de la parole de Dieu lui entrait jusqu'au fond du cœur, et sa vie passée l'épouvantait. Mais l'évangile le consolait. Il était pour lui comme une trompette sonnante publiant la louange de la grâce de Christ. Milon trouva le Sauveur. « Miséricorde m'est faite, disait-il, afin que l'amour de Dieu, qui pardonne aux plus grands pécheurs, soit placé comme sur une estrade et vu de tout le monde. » Il avait maintenant une bride qui le retenait et l'empêchait de se livrer à insultes, débats, riottes, noises et contentions. Le loup était devenu agneau. Barthélemy communiquait les richesses qu'il trouvait dans le livre de Dieu à son père, aux autres membres de sa famille, à tous les chalands qui arrivaient dans l'échoppe du cordonnier. Il n'y avait pas chambre dans Paris qui présentât un spectacle si intéressant et si varié. En effet, la charité chrétienne de Barthélemy devint aussi inépuisable que l'avait été auparavant son habileté mondaine à inventer des divertissements. Il donnait entièrement à Dieu la dévorante activité qu'il avait prodiguée au monde. À certaines heures du jour, le pauvre jeune homme, non pareil en l'art de l'écriture, assemblait les enfants du quartier et leur dictait de son lit quelques mots de la Bible, leur montrant le plein, le délié, et les enseignant à bien former leurs lettres. En d'autres moments, il pensait aux besoins des pauvres, il travaillait diligemment de ses propres mains, et, gravant avec eaux sur couteaux, dagues et épées, il faisait pour les orfèvres choses non usitées. Puis il employait le gain qui provenait de son travail à sustenter plusieurs nécessiteux qui avaient la connaissance de l'Évangile. Il avait aussi une fort belle voix et touchait plusieurs instruments avec grâce singulière. Aussi, le matin et le soir, il consacrait à la louange du Seigneur ses dons qu'il avait auparavant consacrés au plaisir et chantait en s'accompagnant des psaumes et des cantiques. On accourait de toutes parts dans cette boutique située au centre de Paris. Les uns venaient à raison des choses exquises et rares qu'il faisait, les autres le hantaient pour ouïr les chants de musique. Un grand nombre était attiré par le changement si grand et si subit qui s'était fait en lui. « Ah !» se disait le pauvre paralytique, « si Dieu m'a conféré des biens, c'est afin que sa gloire soit par moi magnifiée. » Il instruisait doucement les humbles à recevoir l'Évangile, et si quelques hypocrites se présentaient, il leur faisait compte à part et lançait sur eux les foudres de Dieu. « Bref, dit le chroniqueur, sa chambre était une vraie école de piété, dans laquelle, soir et matin, retentissait la gloire du Seigneur. » Assez loin de sa demeure, mais près de la maison de la Forge, à l'entrée de la rue Saint-Denis, au coin du boulevard, à l'enseigne du Cheval Noir, était une grande boutique de draperie appartenant à Jean Dubourg. Ce marchand, d'un caractère indépendant, qui aimait à voir, à comprendre, à juger par lui-même, n'avait ni fréquenté les écoles, ni même beaucoup parlé avec les évangélistes. Mais pour cela, dit le chroniqueur, il n'avait point été débouté de la sagesse céleste. Il avait reçu de Dieu, par la Sainte Écriture, qu'il lisait assidûment et où il cherchait humblement la vérité, la connaissance de cette bonne nouvelle à laquelle les érudits, disait-on, ne parviennent pas par leur subtilité. Incontinent, il avait répandu tout autour de lui, avec une incessante activité, ce qui avait fort étonné tous ses alentours. Cette ardeur, qui est de grande montre pour le commencement, dirent quelques-uns de ses parents, s'en ira bientôt en fumée, comme un feu d'étoupe, ainsi que porte le proverbe commun. Il se trompait. La parole était entrée tout outre dans son cœur, et elle y avait pris racine si avant qu'il eût été impossible de l'en arracher. Alors les prêtres avaient intrigué, le parentage avait crié, les pratiques l'avaient déserté, mais ni bien ni parentage ne le surent donc divertir de la vérité. tandis que ses anciens amis s'éloignaient de lui, de nouveau s'approchaient. On voyait souvent entrer dans la boutique un receveur de Nantes nommé Pierre Valton. Comme Dubourg, il était homme d'esprit et de crédit, mais tandis que le marchand avait été instruit dans la solitude par le Saint-Esprit, le receveur était venu à la connaissance de l'Évangile par le moyen de quelques bons personnages qu'il hantait, puis la lecture du Nouveau Testament l'avait affermi. Il ne s'en tint pas là. Étant à son aise et ayant l'amour des livres, il achetait tous les écrits des réformateurs qu'il pouvait se procurer. S'il en trouvait un dans quelque arrière-boutique de librairie, il le saisissait, en payait promptement la valeur, le mettait sous son habit dans la crainte que le volume ne fût découvert et se hâtait de retourner chez lui. Arrivé dans sa chambre, il le déposait au fond d'un coffre ou bahut dont il gardait toujours la clé sur lui. Puis, dès qu'il avait un moment, il fermait sa chambre, ouvrait son coffre, en tirait le livre précieux et le lisait avidement. Il écoutait si personne ne venait, car, quoiqu'il fût une âme fidèle, il était encore faible en la foi et avait peur d'être brûlé. Tous ces hommes pieux accueillaient avec joie ceux qui montraient quelque amour pour l'Évangile. On voyait quelquefois dans leur réunion un gentilhomme picard qui demeurait chez l'amiral de Bonnivet, veuve du fameux favori de François Ier. Jean le Comte, c'était son nom, était né à Étaples en 1500. Il s'était attaché à Lefebvre, son compatriote. Il avait été avec lui auprès de Brissonnet et ne l'avait quitté que pour entrer chez l'amiral comme précepteur de ses trois fils. Assidu aux assemblées de la petite église, il y parlait souvent et chacun appréciait sa connaissance des Écritures. Il les lisait même en hébreu, sa bonne théologie et son talent pour exposer la vérité. Nous le retrouverons en Suisse. Un autre personnage un peu étrange attirait l'attention de l'assemblée par son teint brun, son regard sombre, son air mystérieux. C'était un Italien célèbre, Jules Camille, de Forlì, état de l'Église, philosophe, orateur, poète, astrologue, philologue, mythologue, très versé dans la science kabbalistique, qui prétendait communiquer avec les êtres élémentaires et avait travaillé 40 ans à construire une machine en forme de théâtre remplie de petites niches où il logeait toutes nos facultés et beaucoup d'autres choses encore et au moyen de laquelle il prétendait enseigner toutes les sciences. François Ier l'ayant fait venir à Paris, Camille lui exhiba et lui expliqua sa machine merveilleuse. Le roi en fut enchanté et lui donna 500 ducats. Quoique taciturne et rêveur, Camille recherchait pourtant les hommes pieux. Paleario parle de lui dans ses lettres et il se lia à Paris avec Sturm qui recevait volontiers dans sa maison les docteurs de tout pays. Celui-ci fut ravi de voir un savant, appelé d'Italie par le roi et dont tout le monde s'entretenait, incliné vers l'Évangile, et un jour, écrivant à Bucer, il lui dit « Camille a non seulement une science profonde, mais encore une admirable piété. Souvent, Dieu fait quelque chose par des hommes de cette espèce, et quand ils veulent autant qu'ils peuvent, alors ils sont de grands modèles. » Pendant que Sturm écrivait, Camille frappa à la porte et entra. Sturm, lui ayant montré sa lettre, l'Italien écrivit au bas « Plût à Dieu que mon esprit fût dans mes mains ou qu'il découlât de ma plume. Si vous pouviez le voir, vous reconnaîtriez certainement que c'est le vôtre même. » Il paraît que Camille se faisait illusion. Il était un esprit original, désireux de connaître tout ce qu'il y avait de nouveau, aussi la réforme. Mais il y avait chez lui quelque charlatanisme. Si sa fameuse machine ne fit pas avancer la science, elle fit avancer sa fortune, ce qui fut à ses yeux une compensation. Calvin fut moins ravi de lui que Sturm. Le regard d'aigle du réformateur ne le trompa pas. L'air sombre de l'Italien lui parut cacher quelque incrédulité ou quelque hérésie. « Si la joie spirituelle ne règne en notre cœur, disait-il, le royaume de Dieu n'existe point en nous. » Beaucoup d'autres hommes bien connus fréquentaient à Paris les amis de l'Évangile. C'était Défossé, plus tard lieutenant général dans le Berry, Jacques Canet, depuis avocat fameux au Parlement, D'autres jurisconsultes, des nobles, des employés du roi, des industriels, des professeurs. La persécution les manifesta et nous aurons en nommé plusieurs parmi les exilés et les martyrs. Outre ces laïcs adultes, un certain nombre d'écoliers ou étudiants se faisaient remarquer dans les réunions évangéliques. De leur nombre était un jeune garçon de Melun, nommé Jacques Amiot, de fort petit lieu d'Ibèze, ramassé dans les rues de Paris par une dame qui, voulant utiliser le jeune garçon, lui faisait accompagner ses enfants au collège et porter leurs livres. Amiot, qui devait être un des plus célèbres écrivains du siècle, avait bientôt montré pour les lettres grecques un génie merveilleux. Il avait même appris à connaître quelque chose de l'Évangile. Il devait changer plus tard, prendre les ordres et oublier ce qu'il avait appris, jusqu'à devenir très malheureux persécuteur. Mais on le regardait alors comme un ami de la nouvelle doctrine. Toutefois, c'étaient les gens du peuple qui étaient les plus nombreux dans les conventicules. L'un d'eux, un pauvre maçon d'un village situé près de Meaux, Henri Poille, racontait un jour à l'un de ses amis qu'il était venu à la vérité dans l'école de Meaux grâce à l'évêque Brissonnet. « Hélas, ajoutait-il, il a été vaincu dès lors par l'ennemi de la croix. » Les plus nécessiteux même étaient actifs pour les bonnes œuvres. Une pauvre femme nommée Lacatelle s'était faite maîtresse d'école par amour pour les enfants. « Ce serait, disait-elle, une chose par trop cruelle que d'exclure de la grâce de Dieu ceux qui sont en tel âge. » Nul parmi ces chrétiens évangéliques de Paris n'avait autant de zèle que de la forge. « Onque ne fut son bien épargné aux pauvres, » dit le chroniqueur. Il faisait imprimer à ses dépens la Sainte Écriture et aux aumônes qu'il distribuait, il savait toujours joindre une parole de bonté, souvent un évangile ou quelque autre livre pieux. Cependant, tout ne plaisait pas également à Calvin dans Paris. Il aimait à reconnaître la plaisance, la beauté de la ville, mais il s'effrayait en voyant à côté de ses palais magnifiques des abîmes extrêmes et, disait-il, le profond des enfers. Il éprouvait à cette vue une véhémente tristesse. Un mouvement immense s'accomplissait alors partout dans le monde. De même que le soleil du printemps fait lever les semences déposées dans la terre, livrées comme le bon grain, le soleil de la liberté qui commençait à luire ranimait non seulement les germes de la vérité, mais quelquefois aussi ceux de l'erreur. À cette vue, Calvin avait l'âme profondément attristée. Mais il n'en restait pas là. Il avait reçu de Dieu la vocation de s'opposer aux fausses doctrines et il s'apprêtait à le faire. C'est ici l'un des grands traits de son caractère. Il a combattu jusqu'à la fin l'orgueil de ceux qui veulent tout savoir, la manie des subtilités, les prétentions mystiques, l'immoralité, les doctrines unitaires, le déisme qui nie le surnaturel et les théories panthéistes et athées. Il trouvait à Paris toutes ces sortes d'égarements. Son principal moyen pour combattre l'erreur était de mettre en avant la vérité. Cependant, il jugeait utile d'avoir quelquefois des conversations et même des conférences avec les adversaires. Nous allons en voir quelques exemples.